Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Mythes, rêves et mystères » est un recueil d'articles et de conférences de Mircea Eliade, historien des religions, initialement paru au milieu des années 1950 et souvent réédité en français. L'ouvrage ne propose ni un dictionnaire des mythes, ni une théorie psychologique unifiée du rêve. Il rassemble plutôt des études comparatives sur les fonctions du sacré, les récits d'origine, les symboles religieux, l'initiation et les formes de régénération. Son fil directeur est que le mythe, pour les sociétés traditionnelles, n'est pas une fiction futile, mais le récit exemplaire d'un événement primordial. Eliade examine ensuite les survivances, souvent masquées ou sécularisées, de cette attitude dans les sociétés modernes. Les chapitres rapprochent des traditions très diverses, sans les réduire à une seule explication sociale ou psychique. Le livre vise ainsi à rendre intelligible une continuité entre expériences archaïques et préoccupations contemporaines, notamment le rapport au temps, à la mort, à l'angoisse, aux origines et au désir de recommencement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le mythe comme révélation exemplaire plutôt que comme fable, Eliade part d'une définition exigeante du mythe. Dans les sociétés traditionnelles, celui-ci raconte une histoire sacrée située au temps des commencements et impliquant l'action d'êtres surhumains. Sa valeur ne dépend donc pas d'une vérification au sens moderne. Il est tenu pour vrai parce qu'il révèle comment une réalité, une institution, une pratique ou une condition humaine est venue à l'existence. Cette origine fournit un modèle à répéter. Rites, fêtes et conduites collectives peuvent alors retrouver la force de l'événement initial en le réactualisant. Cette conception permet à Eliade de contester l'opposition sommaire entre pensée rationnelle et crédulité primitive. Il ne demande pas au lecteur d'adopter la croyance des groupes étudiés, mais de comprendre la cohérence de leur expérience. Le mythe organise le monde en lui donnant une origine, une structure et une valeur. Il concerne l'être humain dans sa totalité et non sa seule imagination. Quand cette fonction de révélation et de modèle disparaît, le mythe peut se dégrader en conte, légende ou thème littéraire. La distinction est importante pour le livre, car elle empêche aussi de confondre directement un mythe religieux avec un rêve individuel, même lorsque des images comparables y apparaissent. Deuxièmement, les mythologies sécularisées de la vie moderne. Le premier mouvement du recueil porte sur une question décisive pour Eliade, que devient le comportement mythique dans une culture qui se pense désacralisée. Sa réponse ne consiste pas à appeler mythe toute idée populaire. Il repère plutôt des schémas reconnaissables aspirations à un âge heureux retrouvé. Attente d'une transformation radicale du monde, figure collective offerte à l'imitation, scénario de crise suivi d'un renouveau. Les idéologies politiques du XXe siècle lui servent d'exemple, notamment lorsqu'elles mobilisent des promesses de restauration, de rédemption ou de lutte finale. Eliade étend l'analyse à certaines fêtes profanes, ainsi qu'au spectacle et à la lecture. Ces pratiques peuvent interrompre le temps ordinaire et faire entrer dans un temps qualitativement distinct, comme le faisaient rituellement les retours aux origines. L'enjeu n'est pas de déclarer que cinéma, roman ou politique sont des religions déguisées. Il est de montrer que la mécanisation du quotidien et la perte de repères sacrés n'abolissent pas le besoin de sortir du temps homogène. Cette thèse donne au livre son intérêt contemporain. Tout en appelant une lecture prudente, les exemples politiques d'Eliade appartiennent à son époque et ne remplacent pas une analyse historique détaillée de ses mouvements. Troisièmement, origine, paradis perdu et refus de réduire le religieux, plusieurs études sont unies par le prestige des origines. Eliade analyse la nostalgie d'une condition première, plus entière ou plus proche du sacré, que figure selon les traditions le paradis. La terre-mère ou l'état antérieur à une rupture décisive. Ce désir ne doit pas être lu seulement comme une fuite hors du réel. Il explique aussi des pratiques de retour symbolique, recommencer, renaître, retrouver une plénitude, réparer ce qui a été altéré par le temps. Dans cette perspective, la cosmogonie et les récits de création ne sont pas de simples spéculations sur le passé. Ils fournissent une ressource pour comprendre et transformer une situation présente. Eliade refuse néanmoins de traiter les mythes comme les produits automatiques de l'économie, de l'organisation sociale ou de l'inconscient. Il admet que la psychologie des profondeurs met en évidence des analogies entre certaines images oniriques et des symboles religieux. Mais une ressemblance de motifs ne prouve pas une identité de nature. Le rêve est une expérience personnelle, tandis que le mythe fonde un modèle collectif et universalisable pour ceux qui le vivent comme sacré. Cette réserve méthodologique et centrale comparée ne signifie pas tout ramener à une cause unique. Le recueil défend ainsi une histoire des religions attentive au sens propre des phénomènes avant toute explication réductrice. Quatrièmement, angoisse, mort initiatique et régénération spirituelle, le livre accorde une place importante à l'angoisse et à son interprétation religieuse. Eliade observe que la modernité laïque tend à ressentir la mort comme une fin définitive, susceptible de donner au temps historique une dimension accablante. Dans de nombreuses traditions étudiées, la souffrance, la maladie, l'isolement ou l'épreuve initiatique reçoivent au contraire une signification de passage. Il ne s'agit pas de nier leur dureté, mais de les intégrer à une logique de mort suivie d'une nouvelle naissance. L'initié doit abandonner une condition ancienne pour accéder à un statut différent, doté d'un savoir ou d'une responsabilité nouvelle. Cette structure éclaire les chapitres consacrés au mystère et à la régénération spirituelle. Les rites de transformation mettent fréquemment en scène une descente, une disparition symbolique, une réclusion ou une mise à l'écart, avant le retour dans la communauté. Eliade y voit un langage transculturel de la rupture et du renouvellement. Son analyse intéresse parce qu'elle relie les expériences individuelles de crise à des cadres symboliques collectifs. Elle a toutefois les limites de son comparatisme, elle privilégie les correspondances de structures et peut atténuer les différences historiques entre pratiques et sociétés. Le lecteur gagnera donc à retenir la puissance interprétative du modèle sans en faire une clé universelle suffisante. En dernier lieu, Ascension. Expérience du sacré et diversité des symboles religieux. Les essais sur l'ascension, l'expérience mystique. La puissance sacrée et les hiérogamies cosmiques élargissent l'enquête au langage des symboles. Eliade s'intéresse aux images verticales, au passage entre terre et ciel, à la fécondité de la terre-mère et aux unions cosmiques. Ces motifs ne sont pas présentés comme des ornements poétiques détachés des pratiques. Ils rendent pensable une relation entre les niveaux du monde et situent l'être humain dans un cosmos chargé de signification. L'ascension, par exemple, peut exprimer le désir de dépasser une condition limitée, tandis que les images de la terre et de la fécondité lient existence, mort et renouvellement. La démarche comparative cherche des configurations récurrentes à travers des traditions éloignées. Son intérêt tient à sa capacité de faire apparaître des problèmes humains communs. Comment figurer le dépassement? Comment représenter une puissance qui excède les individus? Comment donner forme au lien entre corps, nature et transcendance? Mais Eliade insiste aussi sur la nécessité d'étudier chaque phénomène dans son plan de référence avant de l'intégrer à une vue plus large. Cette précaution est essentielle pour ne pas transformer les ressemblances en équivalences hâtives. Le lecteur rencontre donc moins un catalogue de croyances qu'une méthode de lecture des symboles fondée sur leurs fonctions existentielles et religieuses. En conclusion, mythe. Rêve et mystère conviendra particulièrement aux lecteurs intéressés par l'histoire, des religions, l'anthropologie du symbolique, la mythologie comparée et les rapports entre sacré et modernité. Il peut aussi servir d'entrée accessible à une part importante de la pensée d'Eliade, à condition de ne pas l'aborder comme un manuel académique actualisé. Le recueil offre des bénéfices intellectuels précis, il apprend à distinguer le mythe de la fiction ordinaire, à repérer la fonction du retour aux origines et à interroger les formes sécularisées de récits collectifs. Il aide également à lire les rites, les images de l'ascension, les représentations de la mort et les récits de régénération comme des systèmes de sens plutôt que comme de simples curiosités culturelles. Ce qui le distingue de nombreux livres sur les mythes est son effort constant pour faire dialoguer société traditionnelle et monde contemporain. Là où un ouvrage de vulgarisation se contenterait de résumer des légendes, Eliade examine les usages existentiels du récit sacré et sa persistance sous des formes modifiées. Là où une approche exclusivement psychologique réduirait les symboles à l'individu, il maintient leur dimension collective et religieuse. Sa méthode, marquée par son époque, a été discutée et ses généralisations doivent être confrontées aux recherches plus récentes. Cette limite ne retire pas sa valeur au livre, elle invite à le lire comme une synthèse influente, stimulante et parfois contestable, dont les rapprochements ouvrent des questions durables sur le temps, les origines et la quête de sens. Si vous souhaitez soutenir Mircea Eliade, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.